Salut Fabrice, salut Cyril.
Salut Rudy, salut Cyril.
Donc voici le podcast avec Cyril qui va récapituler sa préparation à J-7 du Top de Colmar. Donc vous avez pu suivre en direct sur Super Physique. Donc petite présentation Fabrice.
Oui, donc en fait il y avait déjà eu une interview qui avait été faite de Cyril l'année dernière sur le site. Donc en fait Cyril il fait partie de la team Super Physique Gold. Donc c'est-à-dire l'élite entre guillemets de notre petite équipe. Et donc comme il disait dans son interview, donc il approche de la quarantaine, il s'entraîne depuis une vingtaine d'années. Donc il est militaire, moniteur chef d'entraînement physique militaire et sportif, et ponctuellement donc il fait des compétitions de culturisme. Et donc quand il a parlé de faire les tops de Colmar 2012, eh ben on s'est dit que ce serait sympa qu'il nous présente son dernier mois de préparation sur le site et qu'il partage avec nous ses impressions ainsi que son évolution photo et vidéo. Et donc il a bien voulu se prêter au jeu et ce soir a accepté une petite interview. Donc pour nous dire un peu son ressenti et aussi répondre aux questions qui lui ont été posées sur le forum. Donc est-ce que ce programme te convient, Cyril ?
Tout à fait. Je vois que vous êtes bien renseigné.
Alors, déjà, donc en fait, la préparation, on a commencé à en parler il y a environ un mois sur le forum, mais toi concrètement, elle a commencé quand exactement ?
Elle a commencé exactement le 1er février.
D'accord, donc à partir du 1er février, tu as commencé à faire ton régime, c'est ça que on
en parle. Jour au lendemain, voilà, je me suis mis à la diète du jour au lendemain, puisque j'avais besoin d'une date butoir. J'avais du mal à m'y mettre, en quelque sorte. Et puis la diète, on peut pas faire à moitié, quoi. Surtout la diète pour perdre du poids, quoi.
Et donc, en fait, avant de démarrer la sèche, tu suivais une diète ou tu étais vraiment...
Non, j'étais sur mes bases. Je vivais sur mes acquis en faisant relativement attention à ce que je mange, hein, en faisant des repas réguliers, voilà, avec ce qu'on connaît de la diète type culturiste, quoi. Sans peser.
En fait, les premières photos qu'on a diffusées, donc sur le forum, tu avais déjà un mois de diète dans les pattes.
Oui, c'est ça, oui. C'est exactement ça.
Ok, et t'avais déjà un objectif cible de poids, ou alors tu fais ta diète, et puis ton objectif c'est d'être bien découpé, mais t'as pas de cible en termes de poids?
Alors en fait, moi j'ai quand même un poids limite, si je veux rentrer dans les men's classiques, c'est 89 kilos, puisque je mesure 1m81, et que pour les plus d'1m80, c'est 8 kilos au-dessus des centimètres de la taille. En l'occurrence, ça donne 89 kilos. Alors du coup, comme c'est une catégorie qui correspond plus à ma ligne et dans lesquelles on trouve des athlètes au physique équilibré sans être outrageusement...
Au physique plus naturel.
Oui, disons que ce ne sont pas forcément des naturels, mais voilà. On trouve des naturels dans ces catégories. Et donc voilà, c'est quelque chose qui me correspond un peu plus.
Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Tu veux qu'on parle un tout petit peu de ton entraînement ou j'attaque directement les questions ?
C'est comme vous voulez.
Allez, je vais récapituler un petit peu ton programme d'entraînement. Donc, c'est celui que tu avais posté sur le site. Donc, sur le forum, tu nous diras si c'est toujours comme ça. Donc, tu avais organisé ta semaine sur 5 jours, donc avec le week-end en repos. Donc, le lundi, tu fais dos et épaules. Le mardi, tu fais quadriceps mollets. Le mercredi, les bras. Le jeudi, ischio-jambier mollet, et le vendredi, donc pectoraux, deltoïdes postérieurs, trapèzes. Et donc, effectivement, il n'y a pas les abdos dans ce que tu as écrit. C'était l'objet de la première question. Il y avait quelqu'un qui disait, qu'est-ce que tu fais pour tes abdos ?
Exactement ce qui a marqué dans le programme. C'est-à-dire rien.
Ah, c'est étonnant, ça.
Tu
comptes que sur la sèche ?
Oui, absolument. Alors, en plus, pour tout vous dire, j'avais... un petit souci avec un lipome abdominal pour lequel j'ai subi une intervention chirurgicale il y a peu de temps. Et du coup, voilà, ça a quand même pénalisé un petit peu les mouvements au niveau de la sangle abdominale pendant pas mal de temps. Et j'ai utilisé ça comme excuse pour pas faire d'abdos, en gros.
D'accord, mais c'est quand même un peu étonnant quand même à ton niveau, parce que... une séance de cuisse, quoi, c'est 10 séances d'abdos, donc c'est bizarre de se dire je fais pas les abdos alors que, tu vois, ce que je veux dire.
Ouais, ouais, j'ai jamais trop aimé ça, les abdominaux, et du coup je joue le jeu, hein, je pourrais vous raconter un petit peu, mais non, c'est, j'ai dû faire deux demi-séances d'abdos depuis le début de la prépa, quoi.
Bon. Et t'as pas mal au dos à cause d'un déséquilibre antagoniste ou quelque chose comme ça pour l'instant ?
Non, pour l'instant non. Voilà, bon, de toute façon là, avec la prépa approchant, enfin la première compète approchant, psychologiquement, je vais avoir besoin de faire des séances d'abdos. Du coup, je vais quand même devoir m'y mettre.
Alors, bah tiens, je t'écoute.
Oui, j'allais dire, parce que tu sens que si tu fais des abdos près de la compète, tu sens que t'es mieux au niveau des abdos ?
Non, c'est
psychologique ?
C'est psychologique, oui. C'est pour se dire, bon, ben voilà, j'ai fait un effort supplémentaire, et voilà. Et je me souviens des frères Ballester, les jumeaux Ballester, qui avaient une sangle magnifique, et qui n'en faisaient jamais. Et je me suis inspiré de leur programme.
Il y en a qui ont de la chance, hein. Ouais, ouais.
Bon, et alors, sinon, il y a... Oui.
Ouais, comme quoi, je veux dire, la sèche joue beaucoup, finalement.
Bah, en tout cas, dans ton cas.
Ouais, et puis le background sportif aussi, parce que j'ai toujours fait énormément de sport. Voilà, je cumule en temps normal, je fais quand même pas mal d'activités cardio, en dehors de la muscu, donc tout ça contribue à avoir un gainage naturel et une sangle naturellement renforcée, quoi.
Ouais, c'est ce que je voulais te demander, donc parce qu'en fait, tu dis que t'as pas tellement de temps que ça de t'entraîner avec ton emploi du temps et que c'est entre autres pour ça que t'as pris l'habitude de travailler en superset pour diminuer la durée de séance.
Oui.
Donc, je me demandais dans quel cadre de ton activité militaire t'arrivais à t'entraîner. Donc, parce que... T'entraînes les autres, est-ce que toi en même temps tu cours en même temps que les autres, comment ça se passe en fait ton travail et tes séances?
Il faut savoir que j'ai quand même beaucoup de chance, puisque en étant moniteur de sport, officier des sports au régiment, je dispose de la salle quand je veux, voilà. Donc c'est vraiment une chance, et j'organise aussi mon emploi du temps en fonction de ça. Donc j'ai quand même un peu plus de chance que le commun des mortels. Maintenant, effectivement, mon métier, c'est pas forcément de m'entraîner, c'est de planifier l'entraînement et de travailler sur les concepts d'entraînement des autres. Alors je participe un petit peu, mais j'ai des moniteurs pour mener les séances. Moi, je mouille plus trop le maillot maintenant, et j'ai des moniteurs qui dispensent des séances de natation, de musculation, de course à pied. Voilà, j'ai toute une équipe pour ça. Alors moi, je fais pas mal d'administration, je gère le service, et je travaille aussi sur les concepts et leur mise en œuvre. Du coup, ça me fait passer pas mal de temps derrière un ordinateur, et quand je prends sur mon temps de travail pour m'entraîner en salle, je peux pas me permettre de faire deux séances de sport par jour, quoi. Voilà.
Ouais, donc en fait, t'es un peu... presque la vie d'un sportif pro.
Pas tout à fait, puisque bon, ben, nous, dans nos statuts de militaires, l'entraînement est compris, quoi. On est obligé de se maintenir en condition physique, mais la musculation, en tout cas le culturisme, ça rentre pas tellement dans ce cadre-là. C'est plutôt une activité de convenance personnelle. Donc moi, je dois maintenir une bonne condition physique, notamment au niveau cardio-pulmonaire. Ça fait partie de mes obligations. Ce que je fais à côté, disons qu'il faut que j'arrive à trouver le temps, ou en tout cas que ça ne vienne pas empiéter sur ma disponibilité professionnelle.
D'accord. Et alors du coup, comment t'arrives à gérer quand même avec ta sèche, quoi? Parce que genre, si tu sèches, tu fais ta séance le cuisse, si le lendemain faut que t'ailles courir dans le cadre du truc militaire, c'est quand même pas évident, non, forcément?
Oui, voilà, ben, à partir du moment où j'ai programmé cette préparation, je savais que j'allais pouvoir organiser mon emploi du temps. Disons que ça tombait bien. Il y a des périodes de l'année, effectivement, où ça aurait été beaucoup plus compliqué. Voilà, donc là, en ce moment, ça tombe bien et je fais une petite impasse sur le cardio et sur certaines activités, puisqu'on n'a pas de, on n'a pas d'activité majeure pour l'instant, donc ça me permet de me préparer tranquille.
Donc là, tu sèches sans faire les abdos et sans faire de cardio.
Absolument.
Ok. C'est bien de préciser parce que les mecs, à chaque fois, ils disent le cardio pour sécher, nanana.
Ouais, mais c'est encore ce qu'on m'a dit il y a pas longtemps. Ouais, de toute façon, t'as qu'à arrêter la muscu et faire du cardio, tu vas sécher. Et puis, bon, c'est une vision que j'avais aussi un petit peu des préparations il y a très longtemps, hein. On disait beaucoup, ouais, mais il faut accentuer le cardio. Certains le font avec plus ou moins de succès. Voilà, moi, peut-être que je sécherai plus, peut-être que ma méthode n'est pas optimale. En tout cas, c'est ce que je fais. Ça me réussit pas trop mal pour l'instant. Maintenant, je suis pas champion du monde non plus, donc peut-être qu'il y a des choses à améliorer dans mon entraînement. Voilà, j'ai mentionné hein, les séances de cardio que j'ai faites. J'ai dû en faire 3-4 depuis le début de la préparation, quoi. Et des courtes.
Ok, alors donc la question de Mathieu, il demande comment tu gères ton stress et si déjà t'es stressé ou si t'es serein.
Alors,
T'as déjà fait quelques-unes quand même de compé.
ouais, il m'arrive d'être plus ou moins stressé, mais c'est souvent pour des raisons autres que la préparation. J'ai parfois des coups de fatigue quand même, je dois être honnête. Mais j'arrive à faire la part des choses entre le stress qui est dû à la préparation et la fatigue que ça m'impose et puis bah, les efforts que je dois faire pour maintenir une vie professionnelle normale, des relations sociales normales aussi et puis une vie de famille. Voilà. Moi, le soir, je dois m'occuper de mes enfants, les faire manger. Donc si je commence à supprimer tous les gâteaux parce que je suis au régime, vous comprenez bien que ça va pas améliorer ma vie conjugale. Mais non, je suis pas vraiment stressé hein, en fait. C'est contrairement
Distraté ni
au...
énervé alors.
Non, du tout. J'arrive à gérer. Je suis fatigué. Il m'arrive d'être fatigué, mais j'arrive à gérer le stress. Beaucoup plus que je ne le faisais il y a quelques années. Mais comme j'étais psychologiquement préparé à justement à souffrir, je m'étais dit, voilà, il va falloir vraiment prendre sur soi et essayer de se détacher un petit peu de ces choses-là qui induisent du stress négatif. Et pour l'instant, ça me réussit plutôt bien. On ne dit pas que j'ai un sens de l'humour extrêmement développé toute la journée, mais ça va, ça passe.
D'accord. Ouais, parce que je me souviens, Rudy, il avait raconté sa préparation
En 2007.
en 2007, là, et il était plutôt sur les nerfs, c'était plutôt pas de libido et énervé en fin de sèche, hein.
Ouais, c'est vrai que c'est le souvenir que j'en avais. C'était vraiment horrible. Mes précédentes préparations étaient vraiment horribles. Et pour l'instant, moi, mis à part la fatigue, ça va. Maintenant, il me reste un mois jusqu'à France IFBB, quoi. Donc, je suis
Oui,
pas non plus au bout, quoi.
Là on a beaucoup communiqué sur les tops de Colmar, mais tu avais dit que peut-être tu ferais encore deux autres compétitions derrière, et donc la préparation durerait peut-être plus longtemps après.
Enfin, là, moi, j'ai envoyé la demande de licence, donc du coup, ça y est, je suis coincé.
Ah d'accord. Là c'est sûr, tu les enchaîneras les deux autres.
Ouais, mis à part un gros contretemps professionnel ou des problèmes physiques, mais non, non, moi, je suis parti. Non.
Ok, alors toujours Mathieu, il demande est-ce que tu te sens une impression de représentation des bodybuilders naturels ou est-ce que tu t'en fiches ou...
J'ai pas de revendication identitaire, je défends pas une cause précise en termes de bodybuilding naturel. D'une part parce que il y a des gens qui n'y croient pas et du coup ça sert à rien de se battre contre des moulins à vent. Et puis je me sens pas faire partie d'une communauté différente des sportifs naturels eux aussi mais dans d'autres disciplines. et qui n'arborent pas forcément leur côté naturel en permanence. Alors nous, effectivement, il y a une grosse différence visuelle entre les pratiquants naturels et les autres. On le voit tout de suite quasiment à qui on a affaire. Hein. Bon, le doute peut être permis parfois. Mais c'est pas le cas dans d'autres disciplines comme le cyclisme ou l'ultra-trail, enfin voilà, que sais-je. Effectivement, nous, ça se voit tout de suite. Mais je pense pas que ce soit pour ça qu'on doive se faire des tatouages « je suis naturel » et machin. Défendre le culturisme et la pratique au naturel, c'est une bonne chose, parce que ça a des vertus sur la santé, et il faut essayer, de chaque fois qu'on peut le faire, de détourner les jeunes du dopage. Maintenant, faire un combat au quotidien, moi j'ai d'autres choses à faire, quoi.
Ah ouais. Ni même tu te sens pas une supériorité parce que tu t'entraînes naturellement.
Du tout. Moi je connais pas mal de gens qui ont fait d'autres choix et pour certains ce sont eux aussi de vrais sportifs. Il y a pas forcément un esprit malsain chez les gens qui ont choisi de doper. Hein. Ce sont des gens comme tout le monde qui ont croisé peut-être les mauvaises ou les bonnes personnes à un moment donné de leur vie. Et qui ont fait un choix de vie ou de carrière différent. Et voilà, bon, c'est les choses de la vie, quoi. Mais il y a des gens très intelligents chez les dopés. Hein, et, je vais pas citer de nom parce que du coup, ça.
Oui, non.
Je vais accuser les gens de dopage, mais enfin, il y a des médecins, des choses comme ça. Voilà, il y a des gens très, très intelligents, très cultivés, diplômés, et des gens très agréables. Parmi eux, quoi. Donc, moi, je me sens pas appartenir à un monde différent, quoi.
Mmh.
Maintenant, okay, je l'avais évoqué sur l'interview, je crois.
Et sur l'interview et sur le forum, t'as fait un message dédié, hein, exprès.
J'aime pas vraiment, c'est l'hypocrisie, en revanche. C'est, voilà, prendre les gens pour des ânes et dire qu'on est naturel alors qu'on ne l'est pas. Ou alors, dire aux gens, parce qu'on a un physique démesuré, de donner des conseils aux gens, voilà, ça, j'aime pas ça, parce qu'on sait, nous, les gens qui ont pratiqué au naturel, on sait ce qu'il y a derrière, et c'est pas parce qu'on fait 120 kilos sec qu'on peut forcément donner des conseils en matière d'entraînement ou de diététique à des pratiquants débutants, ou même confirmés, d'ailleurs.
Ok. Alors pour changer de sujet, donc c'est un dénommé Ben Johnson qui demande si au cours de tes 20 années de pratique, est-ce qu'il y a des techniques de musculation que finalement tu t'es aperçu que c'était pas très utile, que c'était plus du folklore, et à l'inverse celles que tu qui faisaient ton quotidien, donc par exemple justement peut-être les supersets, mais donc celles qui n'auraient pas marché.
Ouais, je pense que ce qui m'a réussi en quelque sorte, c'est de tout essayer justement. C'est le parcours finalement, c'est de faire plein de choses et de chercher l'entraînement idéal sans jamais l'avoir trouvé. À l'heure actuelle, je m'entraîne en superset. L'année prochaine, je ferai peut-être autre chose. Là, ça correspondait à des besoins d'économie de temps. Ça participe également, je trouve, à conserver une bonne condition physique, parce qu'il y a quand même un côté cardiovasculaire un petit peu plus important quand on fait des supersets. Hein, on est un petit peu plus essoufflé pendant la séance que lorsqu'on se repose 2 ou 3 minutes pour faire un seul muscle. Il n'y a pas de méthode qui ont retenu mon attention plus que d'autres. Je m'intéresse un petit peu à tout et il y a des méthodes à partir du moment où on les applique sérieusement qui réussissent à tout le monde. Il y en a d'autres un petit peu plus farfelues.
Comme quoi, enfin, qu'est-ce que tu entends par méthode exactement?
Je sais pas, moi, je pourrais penser au Heavy Duty qui est de Yates notamment, que Yates pratiquait, qui est difficile à mettre en œuvre et surtout, enfin, je trouve que les gains sont difficiles à maintenir quand on est pratiquant naturel avec des méthodes comme ça, quoi.
Je me souviens à un moment tu avais fait un peu de force et
ça m'avait pas du tout réussi.
Ah voilà. C'est pour ça que j'en parle. Donc t'avais mal partout en plus, si je me souviens bien.
Ouais, c'est possible. Ouais. Moi, je suis vraiment pas doué pour la force et donc je pense aussi qu'il faut savoir s'orienter vers la discipline qui nous convient. Il y a des gens, vous les mettez sous une barre de développé couché et 2 mois après, ils font 10 reps à 100, voire même plus vite que ça, sans pour autant avoir recours au dopage. Voilà, il y a des gens qui sont forts, qui sont naturellement forts. Moi j'en vois, hein, nous on a un formidable laboratoire à l'armée, on voit passer des sportifs de tout niveau avec des caractéristiques physiques intrinsèques très différentes. Et il faut savoir s'orienter vers dans la discipline qui correspond à nos aptitudes. Moi la force ne veut pas de moi, quoi. La force me repousse. Du coup, chaque fois que je me frotte à la force, hein, c'est une catastrophe.
Ouais, bah là j'ai vu tes vidéos. Alors je sais pas si c'est représentatif aussi de tes entraînements hors saison, mais tu travaillais avec des charges relativement modérées et une forme d'exécution plutôt, enfin, typique culturiste quoi, assez propre. On a vu ton squat, tu le fais les pieds très serrés, barre haute, enfin,
Ouais.
plein de choses comme ça.
Ouais, mais ça, ce sont des choses, voilà, ça correspond à un aboutissement qui est en cours, hein, puisque je considère pas que je suis arrivé, mais voilà, c'est ma petite expérience de l'entraînement qui fait que à l'heure actuelle, je cherche plutôt à éviter les blessures, à ne pas aller jusqu'à la dernière rep, celle qui va me faire mal, en quelque sorte. Donc voilà, je cherche à me préserver, je préfère jouer sur la répétition. Que de chercher un mouvement en force max et
Mais là,
voilà.
c'est parce que t'es dans la phase de préparation de ta compète ou même hors saison, tu t'es pas non plus au taquet?
Non, hors saison, je cherche à me préserver. Maintenant, c'est ça. Mon dernier squat, entre guillemets, lourd, je m'en souviens très bien, c'était à La Réunion. J'avais mis une barre à 180, alors c'est entre guillemets lourd parce que quand on voit les performances des. Les powerlifters, là, c'est quelque chose d'hallucinant. Mais pour moi, 180, c'était quand même assez important. J'avais mis une barre, donc, et puis en série de 5. J'étais quasiment à la parallèle, on va dire. Et je me suis fait mal dans le bas du dos. Alors, bon, on n'a pas fait d'imagerie médicale, machin. Toujours est-il que j'ai pas squatté pendant 3 ou 4 ans suite à ça, quoi. Et du coup, ça m'a quand même bien, bien refroidi.
Le squat, ça peut faire mal. Alors donc justement, toujours dans la même lignée de questions, donc il y a quelqu'un qui dit que tu t'entraînes depuis 20 ans et finalement t'as pas baissé les bras entre guillemets, ce qui est assez rare. Par exemple, si on prend sur le forum il existe depuis les années 2000, ceux qui étaient présents depuis les années 2000, il y en a 99% qui ont arrêté la muscu.
Ouais,
Et par exemple, si Rudy il est toujours là entre guillemets, c'est parce qu'il avait 16 ans puis que là il en a 24. Et en général, ceux qui avaient, je sais pas moi, 22, puis que maintenant, qu'ont 32, ils font plus de muscu depuis longtemps. Et donc toi, t'as tenu. Alors est-ce que tu penses que c'est pas, je sais pas, peut-être pas du fait que t'as ton métier militaire, ou c'est une passion, ou justement t'as réussi à te préserver malgré tout des blessures, ou qu'est-ce qui fait que t'as cette longévité?
ouais, c'est ça, c'est une vraie passion pour le sport, hein. Peut-être que j'ai réussi à durer aussi parce que je n'ai pas fait que ça. J'ai fait du triathlon, j'ai eu mes années de triathlon, j'ai fait des sports de combat, le rugby, voilà, j'ai essayé pas mal de choses, avec toujours, depuis mes débuts, en fil rouge, la musculation, quoi, le renforcement musculaire. Et ce qui me fait tenir à l'heure actuelle, c'est que je fais avec les blessures, en quelque sorte. C'est-à-dire que lorsque j'ai mal quelque part, je n'arrête pas de m'entraîner. Je choisis des mouvements qui ne sollicitent pas la partie lésée. Voilà, je fais avec. Puis je me prends plus la tête, puisque bon, je ne suis pas tellement dans une optique de performance. Et du coup, on guérit beaucoup plus vite.
Tu veux dire que si par rapport à si tu avais arrêté complètement l'entraînement pendant quelques mois avec le risque de jamais reprendre?
Ouais, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement. Pour des raisons professionnelles essentiellement, il y a 3-4 ans de ça, un peu plus peut-être, j'avais largement ralenti sans arrêter complètement. Et ça a été très compliqué effectivement de remettre le pied à l'étrier. Maintenant, J'ai expérimenté les arrêts sur des périodes plus ou moins longues, avec sans aucun succès, en tout cas au niveau de mon équilibre psychologique. C'est vraiment une nécessité pour moi de m'entraîner. Il n'y a que comme ça que je peux être bien dans ma tête le soir, quoi. Alors que ce soit aller faire une sortie de vélo ou une bonne séance de muscu, j'ai besoin de me dépenser, de faire du sport. J'en fais depuis tout jeune et c'est devenu quelque chose qui fait partie de mon équilibre.
Ok. Alors après, donc c'est Adrien, donc il pose une question que, à mon avis, on a déjà répondu, mais je te la pose. Tu jugeras s'il faut compléter ou pas. Donc il demande comment tu concilies ta vie de famille avec la pratique de ta passion, surtout en pré-compétition.
Voilà, ben, du coup, très concrètement, l'entraînement sur 5 jours, par exemple, ça fait partie des choses qui me permettent de concilier ma vie familiale et ma préparation. Je m'entraîne 5 jours avec 2 jours sur les jambes qui me permettent aussi de me reposer au niveau des membres supérieurs. Et puis le week-end, je m'entraîne pas. Voilà, je refuse de m'entraîner le week-end. Ça, c'est quelque chose que je fais aussi hors saison, hein. Que je faisais pas pendant des années lorsque j'étais célibataire. Voilà, je m'entraînais le samedi. C'est aussi comme ça que je me blessais beaucoup plus souvent. Mais voilà, j'essaie vraiment de que ma vie familiale continue. Et excusez-moi, le week-end, on peut aller au resto, on va manger dans la famille ou quoi. Il n'y a aucun souci. Alors c'est Je me pointe avec des tupperwares, avec mes repas préparés, et les gens sont très compréhensifs. Bien souvent, j'ai même pas besoin de me justifier. Je suis allé récemment dans un resto sur une station de ski là, et alors on avait choisi le resto parce qu'on connaissait le serveur, et visiblement c'était un pratiquant. Et du coup, je me suis pointé avec un tupperware, avec des haricots verts et du blanc de poulet. Il n'a rien demandé, il a fait chauffer, et ils nous l'ont mis dans une assiette décorée. C'était très sympa et le mec a même pas voulu savoir, quoi.
Ah, c'est cool, ouais, t'es bien entouré en fait, ça va, t'es pas.
Ouais,
Disons
apparemment,
que t'es bien
j'ai
entouré et
tapé.
puis on te motive en fait à continuer, quoi. T'as pas les habituels
Non, c'est ça, ben, mon épouse.
questions qui te disent qu'est-ce que tu fais là, tu nous fais chier, tu
Tu
manges
prends pas de
pas.
la pizza en te mettant une pizza sous le nez?
Ouais, non, et puis en plus, alors je parlais tout à l'heure de mon équipe pédagogique, mes moniteurs de sport. On est un petit service, hein, on est 6 à l'heure actuelle. On fait des casse-croûtes le matin après le sport, quand on commence très tôt, par exemple. Si on va à la piscine ou quoi, on rentre à 8h30, 9h. Il y en a un qui s'arrête acheter les croissants, on boit le café, on mange les croissants, machin. Ben, moi, voilà, au lieu de manger un croissant, je bois une prot, et ça se passe bien, quoi. Ben, la vie continue normalement, quoi. On se participe au casse-croûte, sauf qu'au lieu de manger des rillettes de canard, comme ils ont fait cette semaine, j'espère qu'ils vont écouter ce podcast. Bah moi je mange des galettes de maïs, 50 grammes de bananes et une crotte qui a pas de goût, quoi. Ouais. Ma femme est éducateur sportif, en fait. Elle est prof de fitness, alors du coup elle me comprend et elle me soutient, effectivement. Là aussi, à ce niveau-là, j'ai de la chance.
Ok. Alors après, on va repasser à l'entraînement. Donc il y a Matt qui demande comment tu as fait pour développer tes super cuisses. Et c'est vrai qu'elles sont, on voit bien tous les faisceaux. T'as l'externe qui est super développé. Bon, il est un peu court, mais donc du coup, en même temps, ça fait un pic. Mais c'est vrai que c'est vraiment ton point fort, en tout cas les quadriceps.
Je pense qu'il y a une partie de l'explication qui doit être d'origine génétique. À mon avis, hein, parce que je peux pas tout faire reposer sur ma science de l'entraînement, hein, comme vous l'avez remarqué. Il y a certainement une grosse partie que je dois à la génétique. J'ai beaucoup de chance. Et puis moi, j'ai commencé le sport par le vélo. Je l'avais déjà expliqué, il me semble. Mes premières séances de sport pendant lesquelles j'ai transpiré, j'ai souffert, c'était le vélo. Et comme j'étais un bon bourricot, je savais pas trop utiliser les vitesses. Moi, c'était tout en force, quoi. Je moulinais pas trop. Et depuis tout jeune, mes premières séances de vélo sur un vélo immense qui n'était pas du tout à ma taille, j'ai commencé comme ça. Quand je me suis enfin acheté un vélo à ma taille, je n'avais pas trop de technique et je moulinais pas trop. Et donc c'était tout sur la plaque, on faisait des sorties avec les copains sur la plaque. Et voilà, j'ai commencé à choper des cuisses déjà bien avant de faire du squat. Donc après, j'ai capitalisé ce truc-là en les entraînant de façon relativement classique, hein, mais dans la souffrance aussi, puisque mes premières séances de jambes, c'était 2 ou 3 heures en salle, quoi.
Ah oui, d'accord.
Ouais, ouais, je me souviens de mes premières préparations. C'était un calvaire pour me motiver pour aller à la salle quand je savais que c'était les jambes, quoi. J'avais pas de programme prévu à l'avance.
Donc tu faisais quoi? Tu faisais tous les exercices qui existaient?
J'ai toutes les machines et puis voilà, quoi. Une fois que j'avais fait toutes les machines, je pouvais enfin rentrer. Notamment de la presse très lourde.
Donc, bah, comme quoi, en tout cas, ça a peut-être marché, quoi, finalement, de bourriner sur ton vélo et après de bourriner à la salle. Il y avait peut-être de la génétique, mais en tout cas, ça a laissé des traces.
Ouais, c'est une part de chance aussi, voilà, d'avoir eu ce parcours, voilà, d'avoir fait de la merde pendant quelques temps. Et puis, bon, bah, maintenant, mes tendons, je pense, ne supporteraient pas des séances aussi longues et aussi intenses, quoi. Donc, je suis obligé de faire attention. Mais du coup, bon, bah, je vis un petit peu sur les acquis, mais c'est pas pour ça que je me repose quand je fais les jambes, quoi. Enfin, c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai séparé ischio et quadri, c'est en raison de l'intensité et des efforts que ça demande. Enfin, je trouve que les jambes, c'est vraiment très dur à travailler, et lorsque je fais les ischio dans la même séance que les quadri, bah, du coup, je suis toujours un petit peu moins motivé et bah, y a moins de séries pour les ischio finalement, et puis il n'y en a plus du tout, quoi.
Oui, bah, surtout avec un régime hypocalorique. Ouais, ok, alors après, il y a Archimède qui pose une question. Bon, c'est pareil, à mon avis, tu as déjà un peu répondu, mais je la pose quand même. Donc, il dit: quel est selon toi le programme qui t'a fait progresser d'un niveau moyen à un niveau avancé, par exemple en termes de fréquence, volume d'entraînement ou même pourcentage de charge?
J'ai pas vraiment ressenti ça au niveau d'un programme. J'ai pas passé un cap d'un seul coup. Ce qui m'a fait franchir le pas d'un niveau intermédiaire à avancé, c'est vraiment le temps, finalement. Y a que ça, on peut pas remplacer le temps en sport. Moi, je sais pas trop. Il y a effectivement un moment dans ma carrière où j'ai eu des blessures au niveau des membres inférieurs qui m'ont éloigné un petit peu du cardio et de toutes les activités que je faisais, ce qui fait que j'ai dû me rediriger vers la salle, donc notamment en 98, où j'ai eu une rupture des ligaments croisés et avec des complications post-opératoires importantes, ce qui fait que j'ai fait un peu plus de muscu que d'habitude. C'est peut-être là le déclic, on va dire. Mais il n'y a pas eu, ça a été le déclic en matière de goût pour la musculation surtout. J'ai pas franchi un niveau en une seule année, quoi.
Alors, c'est une question d'Archimède. Donc lui dit justement: toi qui as un métier qui réclame de bonnes qualités physiques, il n'a pas entendu que tu étais sur le PC une partie de la journée. Il demande: quel est ton avis sur la critique qui dit que le bodybuilding, ça donne pas de la musculature fonctionnelle?
Effectivement, quand on voit les bodybuilders professionnels, mais là on parle d'une autre catégorie, quand on voit les bodybuilders professionnels à 130 kg sec, effectivement, ils ont une amplitude limitée dans les gestes de la vie courante. Alors, à plus forte raison si le gars était militaire. Mais nous, on a des gens chez nous qui sont très musclés, avec une souplesse naturelle et qui sont souples et félins et qui sont pas du tout limités dans leur métier, quoi. À l'heure actuelle, c'est même d'avoir une certaine musculature. Alors, on parle pas de culturisme professionnel, effectivement, mais d'être un petit peu musclé, ça permet de porter les charges lourdes. L'équipement hein, du militaire, à l'heure actuelle, s'alourdit, parce qu'on est mieux protégé, on est mieux équipé, et du coup, il faut être plus costaud pour porter tout ça. Donc là, à l'heure actuelle, la musculation, le renforcement musculaire et pas le culturisme, le renforcement musculaire, c'est au cœur de la mise en condition physique des combattants.
Donc là, ce que tu veux dire, c'est qu'ils font de la muscu en salle partie de leur prépa physique.
La muscu en salle fait partie de la prépa, mais c'est pas uniquement centré sur la musculation en salle. Hein. On est en train de bosser dessus. Il y a énormément de gainage, de travail de pliométrique, de travail en poids de corps, de travail au TRX. Je sais pas si vous connaissez. On peut pas. Nous, on a une salle qui peut pas accueillir non plus tout le monde. Hein, on est un millier à peu près dans mon régiment. Évidemment, on peut pas accueillir tout le monde dans cette salle, quoi. Mais c'est vrai que là, on est en train de recentrer un petit peu de remettre la musculation au cœur de la mise en condition physique. Alors, c'est pas le culturisme, effectivement. On n'est pas dans le culturisme professionnel.
En termes d'objectifs, mais en termes d'entraînement, quand ils sont à la salle de muscu, ils font quelque chose, ils font les mêmes mouvements que nous, etc. Oui. Je parle à la salle de muscu, hein, je parle pas de gainage biométrique.
Ouais, à la salle, ça fait partie du truc. Ouais. Ouais, effectivement, on fait augmenter la section transversale du muscle, ça permet de répartir la charge sur plus de fibres, et du coup, ça limite les risques, quoi, finalement.
Ok, et donc la dernière question sur le forum, après, peut-être qu'il aura d'autres questions peut-être un peu plus pointues, profitant de ta disponibilité. Donc c'était Mike qui demandait comment tu allais gérer ta dernière semaine. Est-ce que tu allais faire un rebond avec un excès de sodium, et puis après prendre du potassium, enfin arrêter de boire de l'eau, enfin des choses comme ça?
Alors, pour le coup, le rebond glucidique, je suis encore pas sûr, puisque le rebond implique une décharge, et à l'heure actuelle, je suis déjà relativement fatigué. J'ai peur que la décharge provoque une fatigue encore plus importante et que j'ai du mal à m'en remettre, y compris au rebond. Alors du coup, là, le rebond, pour l'instant, je suis dubitatif, d'autant plus que j'ai encore 3 semaines à tenir derrière. Alors, du coup, je vais tenter la balance sodium-potassium, effectivement, avec une alimentation un peu plus salée sur le début de la semaine, et en coupant le sel avec en prenant du potassium à côté sur la fin de la semaine. En ce qui concerne le rebond glucidique, je suis beaucoup plus mesuré, et en tout cas, je vais me montrer beaucoup plus prudent.
D'accord. Et donc pour ceux qui connaissent pas, quel est l'intérêt en fait du sodium potassium?
Alors moi je ne suis pas de formation scientifique, mais l'effet visuel c'est que l'eau sous-cutanée est moins visible, en tout cas elle disparaît. Elle est attirée au niveau en tout cas l'eau qui est exsudé n'est pas renouvelé, et le muscle retient beaucoup plus l'eau, alors d'autant plus quand on l'accompagne d'un rebond glucidique. Mais là encore une fois, voilà, je vais être prudent dans ce domaine, je ne voudrais pas tout foirer. Je vais tenter la balance sodium-potassium. En gros, voilà, l'effet visuel c'est qu'on a moins d'eau sous-cutanée, et que ça donne un relief plus important. Maintenant, ça concerne les gens qui sont déjà prêts. Il faut être très sec pour que cette balance sodium-potassium ait un effet visuel satisfaisant. Bon, du coup, moi, je suis pas encore ultra écorché. Il faut que je... De toute façon, j'ai encore une semaine pour perdre un petit peu, hein, à 2400 calories. Si je perds pas de poids, c'est quand même malheureux. Donc voilà, je vais tenter ça et on verra bien.
Ok, mais pourtant quand on voit tes photos, déjà, enfin,
Bon, trop sec.
t'es déjà sec, hein, déjà.
Ouais, mais il y a sec et puis il y a écorché. La compétition ne souffre pas de l'approximation, quoi. Quand on voit, bon, j'ai parcouru un petit peu les forums à la recherche d'adversaires éventuels, et bon, quand on voit le niveau de sèche de certains, bon, bah, c'est quand même du très très haut niveau, hein. Moi, pour l'instant, je suis pas au niveau, j'ai l'impression, hein, en termes de sèche. Donc à voir, de toute façon on verra quel jour lit, mais je vais pas tout donner pour Colmar. Enfin, je vais pas me mettre à la rue, disons, pour Colmar, et puis pour finir à l'hosto le lendemain, quoi. Si je dois finir à l'hosto, ce sera le lendemain d'IFBB à la limite. Mais là, non, il faut que je maintienne toutes mes capacités de concentration pour le boulot. J'ai 3 semaines à tenir avant la dernière compète, donc les fessiers striés, ça sera pas pour Colmar, ça sera peut-être pour le Grand Prix des Pyrénées, mais encore une fois, peut-être.
Bon. Ok, mais on a fait toutes les questions. Alors peut-être que Rudy, tu voulais ajouter d'autres choses?
Non, bah moi je pense que j'avais pas d'autres questions en fait. Ça a répondu un peu à mes questions parce que moi aussi je trouvais que tu t'entraînais vachement léger. Mais comme tu dis, en fait, tu te préserves alors, c'est ça en fait. Est-ce que tu es encore dans une
Ouais.
optique en fait de progression?
Bah, pour l'instant,
Parce que j'ai l'impression que quand tu es hors saison en fait, t'es pas très motivé et là quand tu fais ton régime, tu prépares ta compète, t'es vachement plus motivé.
exactement, ouais. J'ai eu la remarque d'un camarade qui trouvait que je me la jouais un peu cool hors saison, et que là je me mettais un peu plus la dose. Ouais, c'est ça, hein, il y a une question de motivation. Donc effectivement, là je me fais des séances un peu plus intenses que d'habitude. Je me mets un peu plus la dose parce que j'ai une échéance qui approche. En temps normal, bah, un peu moins parce que la séance de musculation, elle est insérée dans un programme d'entraînement beaucoup plus global. Et puis bon, bah voilà, je vais pas me mettre la dose en permanence. J'ai pas que ça. Il faut que je maintienne mon niveau de condition physique cardiovasculaire. Je peux pas me péter un deux sur chaque séance de muscu, quoi.
Tu penses pas, ma question c'est, est-ce que tu penses pas que c'est, tu te dis peut-être qu'à ton âge, progresser c'est plus compliqué, et donc dans ce cas-là ça te motive pas, ou c'est vraiment par rapport à la condition physique?
Non, non,
Ouais.
c'est-à-dire que je suis en. Moi, le sport, c'est le bien-être pour moi, hein. Donc, si on se met la pression toute l'année, moi, à mon âge, je serai jamais professionnel dans aucune discipline sportive, en tout cas. Du coup, c'est pas la peine de me mettre la pression. C'est la recherche du plaisir avant tout, et voilà. Tant que j'ai des bonnes sensations, que la séance de sport me fait du bien, je continue comme ça. Effectivement, ça va quand même au fil des ans être beaucoup plus compliqué pour progresser. Il faut pas se voiler la face. Maintenant, en muscu et même en culturisme, hein, on voit des gens arriver au sommet très tard. Alors là, pour le coup, on peut se comparer, enfin, on peut faire la comparaison avec les cultos professionnels. Eux, ils arrivent au sommet très tard, hein, bien après les 30 ans, généralement. À part l'actuel monsieur Olympia, mais parce que l'expérience compte énormément. Et moi, dans mon cas, par exemple, si je me blesse beaucoup moins, c'est grâce à cette expérience. Alors du coup, ça me permet de progresser, pourquoi pas, ouais, dans certains domaines. Alors, en tout cas, les compètes le diront. Si on verra sur les photos si j'ai progressé, mais moi, j'ai le sentiment d'avoir un physique un peu plus équilibré qu'avant, peut-être même un peu plus musclé qu'avant pour un poids de corps équivalent, donc à voir.
Ouais, donc en fait, hors saison, tu arrives à t'entraîner sans chercher à progresser, en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah, je cherche pas la perf à chaque séance. Effectivement, je cherche pas, je me fixe pas d'objectif en termes de charge.
Ouais, c'est marrant. Mais ça, même avant, c'était comme ça ou avant t'étais toujours dans l'objectif de progresser. C'est en fait c'est progressivement avec l'âge.
Avant, je testais pas mal de choses. Effectivement, je me mettais des challenges. Je me disais bon bah tiens, je vais arriver. Je vais passer 10 fois 120 au coucher, par exemple. Et généralement, j'arrivais souvent à me blesser, finalement. Donc, quand l'objectif, c'était de se blesser, j'y arrivais bien. Mais en dehors de ça, et les petits challenges, parce que c'est souvent une notion de performance et qui est en relation avec la charge... du coup, ça renvoie à la force et à chaque fois je me blesse quoi. Donc du coup, de pas chercher la perf, ça me permet de progresser. Alors c'est moins flagrant finalement, mais quand on se blesse pas pendant 2 ou 3 ans, on progresse beaucoup plus que en s'entraînant 6 mois sur l'année quoi.
Bon bah c'était ma question qui me taraudait.
Ok, donc si on récapitule, donc le top de Colmar qui a lieu samedi 14 avril, donc la semaine prochaine, il est ouvert au public. Donc s'il y a des gens qui sont à proximité, ils peuvent venir te voir ou même voir la compétition si j'en ai jamais vu comment ça se passait. Et après, donc tu auras le Grand Prix des Pyrénées, donc là, lui qui sera le 28 avril, et j'imagine qu'il est aussi ouvert au grand public.
C'est ça, oui.
Et après, donc tu as les France ISBB, donc le 5 et 6 mai à Langogne.
C'est ça.
Et donc voilà, la première échéance, donc c'est Colmar, la semaine prochaine, pour ceux qui veulent venir, donc il y en a qui ont déjà dit qu'ils viendraient peut-être sur le forum. Et puis voilà, bah, j'espère qu'en tout cas ça a permis... le fait que tu partages un peu tes séances, les photos et les vidéos, bah, ça a permis de montrer le culturisme, entre guillemets, sur un jour, peut-être mieux que ce qu'on peut voir, quand on voit juste la compète, on se rend peut-être pas forcément compte de toute la préparation qu'il y a derrière, donc j'espère que ceux qui ne savaient pas comment ça se passait, ben, ils sauront un peu plus après ça.
Et que ça a motivé beaucoup de personnes à s'entraîner, à se dépasser.
Ouais, c'est ça.
C'est ça surtout.
Donc voilà, bah bonne chance Cyril.
Merci les gars, et puis à bientôt.
À bientôt, salut.
Salut Cyril, salut.